Quand on prépare des prédications et qu'on le fait de manière très régulière, il y a, je dirais, le pain quotidien. Et puis, de temps en temps, Dieu vient nous chercher sur des choses assez précises. Et ça met toujours un petit coup de pression quand c'est comme ça. Des fois, on se demande s'il faut vraiment qu'on y aille ou pas. On se pose la question. Mais l'expérience m'a montré que quand c'est comme ça, souvent, c'est que, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Donc, c'est par là que je suis allé, mais j'avoue que je viens... vous verrez, hein. Vous verrez. Cette prédication commence comme ça. D'ailleurs, il me faut la zapette. Est-ce que je suis devenu fou ? Vous voyez, c'est comme ça que ça démarre. Est-ce que je suis devenu fou ? On est quelque part dans le courant de l'année 2003. Il fait beau. Je marche tranquillement dans une rue de ma ville, là-bas, à Clermont-Ferrand. Et sur le trottoir, arrivant face à moi, il y a un homme. Et derrière cet homme, arrivant dans le même sens, sur la chaussée, il y a un bus. Et c'est là que ça arrive. Et c'est très clair. Une image s'impose à mon esprit comme une injonction, comme un ordre, une image qui me tétanise. Est-ce que je suis devenu fou ? Ça, c'est la fin du premier acte, je vais y revenir. Mais on va remonter d'abord un tout petit peu plus loin en arrière, enfin quelques années en arrière. J'ai 15 ans et ma maman vient de mourir. Alors pour des raisons, je crois, assez évidentes, je suis pétri de questions existentielles à ce moment-là. Et à ces questions, au fil des années, je vais leur apporter des réponses. Malheureusement, je vais leur apporter de bien mauvaises réponses. Et ces mauvaises réponses vont façonner tout doucement, de glissement en glissement, mon monde intérieur. Et c'est comme ça qu'on se trouve en 2003, sur ce trottoir de Clermont-Ferrand. Face à cet homme et à ce bus, le fruit est mûr. Il manque une pichenette, trois fois rien, pour sombrer et pour arriver dans la rubrique des faits divers. J'ai poussé l'homme sous le bus. Alors je l'ai fait en pensée. Mais c'était comme un ordre, c'était comme l'aboutissement logique du monde intérieur que je m'étais bâti. Et de la pensée au geste, je sentais bien qu'il ne manquait pas grand-chose en vérité. Et des images comme ça, j'en avais eu d'autres. Elles allaient toutes dans le même sens, celui de la destruction de ma propre vie ou de celle des autres. Et au moment où je les vis, je ne sais pas d'où elles viennent. Je sais que je ne les veux pas, je ne les cherche pas, mais elles sont là, elles s'imposent à moi, et elles s'imposent à moi avec la force d'un coup de fouet, c'est violent, c'est d'un coup, c'est sans prévenir, et ça me fiche une trouille bleue. Alors maintenant, avec quelques années de recul, 20 ans, je sais d'où ça venait. Et parce que je sais à quelles catastrophes peuvent mener de mauvaises réponses apportées à d'excellentes questions, eh bien, je vais vous le dire. Mais avant, je vais prier et on va lire un passage de la Bible qui va nous éclairer. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Vraiment pour cette parole qui est vivante, qui produit du fruit dans nos vies, pour cette parole qui est puissante, qui a cette capacité non seulement de venir nous chercher là où nous nous trouvons, mais en plus de nous en sortir. en un mot pour cette parole qui est capable de nous sauver. Merci Seigneur parce que ce n'est pas un concept théologique, c'est une réalité qui vient jusque dans notre monde physique, jusque dans notre monde ici-bas. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, à chacun, par cette parole. Et alors que nous nous apprêtons à l'écouter une fois encore, Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit illumine notre entendement pour qu'on puisse l'accueillir comme ce qu'elle est, c'est-à-dire ta parole vivante qui nous rejoint et qui nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Alors le texte que je vous propose se trouve dans Éphésiens. Je vais l'afficher, je vais le lire dans une version qui s'appelle « Parole de vie ». Et donc je vais le lire sur ma tablette, parce que je ne l'ai pas en papier, tout simplement. Mais c'est une version qui a le mérite d'être directe, simple à comprendre, une traduction, pardon, parce qu'une version, il n'y en a qu'une, hein, la Bible, il n'y a qu'une version de la Bible, mais il y a plusieurs traductions. Et donc ce texte, on le trouve en Éphésiens 1, verset 19, et je vais lire jusqu'au chapitre 2, verset 8. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Je suis désolé, j'ai oublié de passer la diapo. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Quel texte ! Il y a là de quoi aller chercher le plus désespéré des êtres humains. Paul s'adresse aux Éphésiens. Mon Dieu, cette ville d'Éphèse, j'en ai déjà parlé. Au milieu de cette ville trône le temple de Diane ou d'Artémis, selon son nom grec. Ce temple, c'est l'une des sept merveilles du monde dans l'Antiquité. C'est un temple gigantesque qui peut accueillir à lui seul le tiers de la population totale de la ville d'Éphèse, 25 000 personnes. Un poète du IIe siècle, Antipatros, va dire de ce temple « Vois, hormis l'Olympe, jamais le soleil ne vit une si grande chose ». Alors on parle d'un temple, et on se dit « Bon, on parle d'un bâtiment, très bien, c'est beau, c'est... » Mais on parle aussi d'une déesse. On est sur un registre spirituel. On est dans un contexte où les gens ont bâti leur monde intérieur, ont apporté des réponses à leurs questions existentielles par le biais de ce qu'ils avaient le plus immédiatement sous la main, la déesse Diane, la grande Artémis, celle qui est admirée par tout le monde antique. Spirituellement, c'est puissant, c'est imposant, ça couvre tout. Cette déesse, elle vient s'imposer comme une chape de plomb sur cette ville. Mais Paul arrive là-dedans et ça ne l'impressionne pas. Vous connaîtrez Vous, Éphésiens, vous qui vivez dans cette ville où il y a ce temple et cette déesse qui règne, vous, vous allez connaître la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Vous connaîtrez, vous, Chambériens, vous, Savoyards, la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Mais on va commencer par le commencement. Chapitre 2, verset 1, c'est très engageant. Vous étiez morts. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, dit Paul. Autrefois, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissiez pas Jésus. Lorsque vous ne connaissiez pas Jésus, lorsque vous n'étiez pas connu de lui, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Et on entend péché et on se dit, voilà, ça y est, c'est là, c'est le moment, c'est là qu'il va nous sortir un discours moraliste, il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien, la pluie ça mouille, le feu ça brûle, tous ces trucs. Alors, je vais commencer par tordre le cou tout de suite à une idée qui a la vie dure. Non, le péché n'est pas une affaire morale. Ce qui distingue la justice du péché, ça n'est pas le bon et le mauvais, mais c'est la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, c'est ce que nous dit le Seigneur en Deutéronome 30, verset 19. Péché, ça n'est pas faire quelque chose de mal. Fondamentalement, péché, c'est passer à côté de la vie que Dieu a en réserve pour nous. Ça amplifie pas mal le spectre de ce qu'on appelle péché. Évidemment, quand on a fait le mal, on passe à côté de cette vie, bien sûr, mais quand on répond à de bonnes questions existentielles par de mauvaises réponses, on passe aussi à côté de cette vie. Et de glissement en glissement, on se met à penser des dingueries en croisant un pauvre type qui n'a rien demandé à personne. On se met à prendre des décisions dans nos vies qui nous mènent droit dans le mur ou, pour reprendre des termes plus bibliques, qui nous mène à la mort. Et le truc, c'est qu'on a un vrai problème, en tout cas moi j'en avais un, d'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? Pour ce qui me concerne moi, d'où me venaient ces images? D'où elles sortent? Je ne les veux pas, pourtant elles sont là, d'où elles sortent? Mais peut-être pour ce qui vous concerne, d'où vient le fait que dans tel ou tel domaine de ma vie, je suis toujours complètement à la ramasse? Comment se fait-il que moi, femme, je tombe toujours sur des sales types qui abusent de ma confiance? Pourquoi est-ce que moi, homme, j'éprouve cette colère qui me pourrit la vie, qui m'a fait briser des relations qui pourtant m'étaient chères? Alors on peut intervertir, hein, les femmes peuvent être en colère et les hommes tomber sur des femmes qui systématiquement brisent leur confiance. Qu'est-ce qui fait que je suis incapable d'être émotionnellement stable? Pourquoi est-ce que j'arrive jamais à aller au bout de ce que j'entreprends? Vous voyez, les questions qu'on peut se poser sont nombreuses, les domaines où on peut passer à côté de la vie que Dieu a en réserve pour nous sont nombreux. Et si nous bataillons constamment avec ces questions, eh bien c'est peut-être bien parce qu'on n'a pas été chercher la réponse au bon endroit. Le texte qu'on a lu nous dit pourquoi nous sommes à côté de la plaque. Vous viviez dans le péché comment ? En suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Je ne vous dis pas la révélation que ça a été pour moi, ça. Ainsi donc, ces images qui me venaient en pensée ne venaient pas de moi. Ce n'est pas moi qui les générais. Il y a un esprit du mal. Et cet esprit du mal agit en moi. Mais pourquoi? Parce que, nous dit le verset 3, nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Alors là, on est bien sur un jugement moral, n'est-ce pas? Mes désirs sont mauvais, mes pensées sont mauvaises. Il y a quelqu'un qui regarde ça et qui dit « Oh, c'est pas beau, c'est mauvais ». Et je ne crois pas, en fait. Je pense que c'est un constat. Mes désirs et mes pensées sont mauvais parce qu'ils passent à côté de la vie. C'est ça qui les rend mauvais, quand je suis à côté de la plaque, en fait. En fait, au lieu d'obéir au Dieu de la vie, eh bien, ils obéissent à un maître intérieur qui œuvre à ma destruction. Et donc, j'ai un ennemi intérieur à combattre. Tu parles d'une révélation. Ça change tout, ça. Ça change tout parce que ça me fait passer du statut de victime qui subit ces images, ces pensées bizarres qui viennent, tu ne sais pas d'où, et tu dis « Oh, qu'est-ce que je fais avec ça ?» à celui de combattant. Il y a un ennemi à combattre. Je dois donc me dresser et combattre. Ok, mais comment on fait pour changer ça? Comment est-ce qu'on fait pour ne plus passer à côté de la vie? Comment ça marche? Et c'est là qu'on se confronte à un autre problème, parce qu'en vérité, face à cet ennemi qui nous assaille, eh ben, on n'est pas de taille. On n'est pas de taille. Vous pensez bien que j'ai essayé. Quand vous passez par des moments comme ça, vous essayez. Je me souviens encore de longues soirées passées dans ma chambre avec une bougie pour toute lumière que je fixais là pour essayer de maîtriser mes angoisses. Je faisais des exercices de respiration, j'essayais de me raisonner en disant « Non, tu n'es pas en train d'étouffer. » Parce que vu que ça fait 6 heures que tu as l'impression d'être en train d'étouffer, si tu étais en train d'étouffer, tu serais déjà mort. Et vous comprenez que ça, ce n'est pas de la vie. En tout cas, ce n'est pas de cette vie-là dont ce texte nous parle. Ça, c'est de la survie, on s'accroche aux branches, quoi. Mais que nous dit ce texte de Paul aux Éphésiens? Il nous dit, au chapitre 1, « Sa puissance et sa force, Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Paul, il n'est pas en train de parler d'Emmanuel Macron, là. Aussi, mais pas seulement. Pas seulement. Il est en train de parler de ce maître intérieur, de cet ennemi qui prend plaisir à te clouer à terre. Il est en train de parler de cet ennemi qui te maintient sous sa botte et il dit « Christ est placé au-dessus de cet ennemi. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Christ a autorité sur cet ennemi. Pourquoi ? Parce que cet ennemi, il l'a vaincu à la croix. Le péché nous séparait de Dieu, le péché nous menait à la mort. Et ça, ça faisait bien ses affaires à l'ennemi intérieur. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus, et Jésus, qui est pleinement Dieu, a pris sur lui notre péché et il est mort à notre place. Et ça, c'est la grande déroute de l'ennemi. Voilà ce qui s'est passé à la croix, de façon à ce que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais a la vie éternelle. Et Dieu le Père a approuvé son Fils. Il l'a ramené d'entre les morts, et il l'a amené à régner sur toute la création. Alors on se dit, c'est magnifique. Donc, Jésus a le pouvoir de me libérer de cet ennemi intérieur. Et quand on croit ça, on se retrouve parfois tout étonné quand on prie Dieu de nous libérer et que rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois ma difficulté, tu la connais par cœur, cette difficulté, tu règnes sur toute la création, alors délivre-moi, bon sang, délivre-moi maintenant. Et Dieu ne fait absolument rien. Il ne fait rien. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est le verset 8 qui nous le dit. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Une traduction plus littérale serait « Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut, c'est un cadeau. Et il ne manque rien à ce cadeau. Ce cadeau, il est fait, il est emballé, il est posé devant toi. Tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés a déjà été fait. Jésus, avant de mourir sur la croix, a dit « Tout est accompli, le cadeau, il est emballé, il est devant toi, il ne manque rien ». Donc, ce n'est pas la peine de lui en demander en plus. Il ne manque rien. Tout ce qu'il manque, c'est ta foi. Si Dieu ne te délivre pas, c'est parce qu'il t'a déjà délivré. Tu es en train de lui demander quelque chose qu'il a déjà fait. Seulement, tu te fais avoir. Tu te fais avoir par l'ennemi intérieur qui, lui, se frotte les mains Il est bien content parce que t'as pas l'air au courant qu'il n'a plus aucun droit sur toi. Et du coup, tu lui laisses un boulevard dans ta vie. Éphésiens 2 nous dit « Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. » C'est fait, il nous l'a donné, la vie avec le Christ. « Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. » Et le verset 6 dit « Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. » Vous comprenez, si je suis en Christ, si je lui appartiens, spirituellement parlant, je suis là où Christ se trouve. Je suis en lui. Et donc, je ne suis plus sous la coupe de l'ennemi, je suis au-dessus, parce que j'ai changé de maître et que mon maître règne sur toute la création. En Jésus et par Jésus, en son nom à lui, je peux vaincre l'ennemi intérieur. Et là, on n'est plus sur du bricolage. On n'est plus sur du bricolage à coup d'exercice de respiration. Quand Satan vient me tenter avec des pensées destructrices, je peux lui dire « Non, c'est fini là, c'est fini. J'ai aucune part avec toi. J'appartiens à Jésus-Christ qui t'a vaincu à la croix. J'appartiens au Dieu de la vie. Et le seul esprit qui a autorité sur moi, c'est l'Esprit Saint. Donc toi, dégage. Pardon, mais c'est comme ça. Je te renvoie au lieu de ta défaite. » Et vous savez ce qui se passe ? Eh bien, il se passe exactement ce que dit l'apôtre Jacques dans sa lettre. « Soumettez-vous à Dieu, dit l'apôtre, combattez le diable. » Et qu'est-ce qui se passe ? Le diable fuira loin de vous. En 3 semaines, j'ai été libre de mes démons intérieurs, parce que c'est bien comme ça qu'il faut les appeler. Et je suis entré dans une joie, dans une paix, dans la joie des nouveaux convertis, qui parfois est un peu trop exubérante, mais on le serait à moins, franchement. Quand on a trouvé un trésor comme celui-là, on a quand même un peu de mal à le garder pour soi, surtout quand on voit autour de nous des gens qui pataugent encore dans les ténèbres. Alors, j'ajoute juste une chose, pour terminer. C'est que je ne fais pas là de triomphalisme facile, et je crois que c'est important de le dire. Il y a des moments dans la vie qui nous fragilisent. Il y a des épreuves terribles par lesquelles on peut passer. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas se retrouver à terre à un moment ou à un autre. Parfois, la victoire sur l'ennemi, elle est spectaculaire, et d'autres fois, eh ben, ce n'est pas comme ça. D'autres fois, la lutte est âpre, d'autres fois, la lutte dure, parfois, il y a des batailles perdues, il y a des moments où on se sent dans l'impasse, et il n'y a pas à avoir honte de ça. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Dans la Bible, on voit Job lutter durant 40 chapitres avant de voir arriver sa délivrance. Et pendant ces 40 chapitres, ce sont ses propres amis qui font le jeu de l'ennemi en venant suggérer que s'il passe par toutes ces épreuves abominables, c'est bien parce qu'il a dû faire quelque chose de mal, c'est bien parce qu'il a dû pécher. Mais à la fin, Dieu dit aux amis de Job, « Vous n'avez rien compris, vous avez mal parlé, taisez-vous. » Il y a une part de mystère à la souffrance. Et face à elle, je crois qu'on doit se revêtir d'humilité. Et on doit être là les uns pour les autres. On n'est pas des combattants isolés. On a besoin les uns des autres, et c'est ensemble, tous ensemble, que nous luttons. Nos fardeaux, nous les portons à plusieurs. Quand un membre du corps souffre, nous souffrons avec lui, et quand un membre du corps se réjouit, on se réjouit ensemble. Mais ce que nous savons avec une absolue certitude, c'est que le Dieu qui vit en nous, par son Esprit Saint, règne. Il règne. Il règne sur toute la création. Et Satan et tous les anges qu'il a entraînés à sa suite, dans sa chute, sont des créatures. Rien de plus que des créatures. Ils sont sous les pieds du Christ. Alors la lutte est peut-être âpre, des batailles sont peut-être perdues, mais la victoire finale, qu'elle vienne dans cette vie ou dans l'éternité, elle est certaine. Parce que cette victoire, elle a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans, là-bas, à la croix de Golgotha. Et cette victoire finale, Dieu nous en fait goûter les prémices dès ici-bas. Il y a des délivrances, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des gens spirituellement morts qui reviennent à la vie. Et c'est ce que manifeste d'ailleurs le baptême que nous venons de vivre, une mort et une résurrection à une vie nouvelle unie au Christ, Seigneur et Sauveur. C'est ce que signifie l'immersion, c'est une mise au tombeau, et c'est ce que signifie le fait d'en ressortir. On ressort de ce baptistère comme on ressort, je dirais, de la mort, et on y ressort pour une vie nouvelle unie à Christ. Tabatali, tu es au début d'un chemin merveilleux, parce que Dieu t'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, et que tu n'es qu'au début de ta découverte des richesses que Dieu a pour toi. Et s'il y en a parmi nous tous, qui sont empêtrés dans les chaînes de l'ennemi, et peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, en fait, la question n'est pas là. Ceux qui étaient là au culte du matin à Noël se rappelleront peut-être que j'ai partagé avec vous une délivrance toute fraîche liée à ma gestion du sommeil. S'il y en a qui veulent un update, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Mais ça se passe bien. Et puis, il y a encore 3 semaines, je me repentais devant vous d'un péché. On a tous du boulot vis-à-vis de soi-même devant le Seigneur. Tous, parce que nous sommes tous pécheurs. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont empêtrés dans les chaînes de l'ennemi dans tel ou tel aspect de leur vie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète aujourd'hui, nous avons dans cette Église une équipe d'accompagnants qui sont formés et qui sont prêts à vous recevoir dans de bonnes conditions. Et ils ne se placent pas en sachant comme si eux-mêmes étaient arrivés au but, ils se placent en compagnons pour discerner avec vous les points d'achoppement qui vous maintiennent encore à terre. Et au bout, ce qu'il y a, c'est une possible délivrance. Et en tout cas, une bénédiction. La vie que Dieu a en réserve pour vous. Alors, vous venez me voir à la fin du culte, vous m'appelez, vous me contactez par Internet. Pour ne pas me trouver, il faut le faire, je vous le dis, parce que vous voyez, hein, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, je pense qu'il en manque. Et je vous mets en contact avec cette équipe. C'est aussi simple que ça. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier à nouveau parce que la vie abondante que tu donnes, Seigneur, ce n'est pas une vie conceptuelle, abstraite. C'est une vraie vie qui nous rejoint ici-bas, dans le très concret de notre existence. Je te remercie parce que quand tu viens vivre en nous par ton Esprit Saint, quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous le reconnaissons pour ce qu'il est, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur. Seigneur, toi tu viens nous renouveler de l'intérieur, tu viens renouveler nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre intelligence, pour les rendre conformes à la vie que tu donnes. Et ça change tout dans notre existence. Je te remercie de ce que la vie éternelle, c'est pas juste quelque chose pour après la mort, dans très très longtemps, quelque chose qui nous concernera quand on aura 95 ans et qu'on commencera à avoir peur de ce qui va advenir. Non, c'est pour maintenant. C'est pour tout de suite. Parce que Seigneur, tu vois bien que de la même façon qu'on peut goûter les prémices de ce royaume qui est à venir, tu vois aussi que le monde, dans sa grande majorité, goûte dès maintenant les prémices de l'enfer qui est à venir et est en souffrance. Beaucoup ignorent qu'ils sont en souffrance parce qu'ils ne te connaissent pas, ils sont éloignés de toi. Ils pataugent, ils apportent à de très bonnes questions existentielles qui sont importantes, qui sont fondamentales, qu'on a raison de se poser. Ils apportent de mauvaises réponses, des réponses qui n'amènent pas à la vie, mais qui les font s'enfoncer chaque jour un peu plus, loin de toi. Seigneur, dans cette ville d'Éphèse, il y avait une puissance spirituelle très forte qui régnait là, et Paul n'a pas eu peur. Et il a raison, évidemment, puisque toi tu règnes sur toute la création. Alors nous savons que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le lieu de détresse qui est le nôtre, quels que soient les points où notre vie semble bloquée, arrêtée, coincée, Seigneur, toi, ta main n'est pas trop courte pour aller nous chercher là où nous sommes. Ta main n'est pas trop courte. Nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner des lieux où nous nous trouvions avant que ta main nous trouve, à pouvoir témoigner que ta main n'est pas trop courte. Alors Seigneur, si parmi nous il y en a qui sont perdus loin de toi, Seigneur, je te prie de te révéler à eux, maintenant, dans le courant de cette semaine, de la manière qui te semblera bon, parce que tu es un Dieu qui parle. Seigneur, tu parles par ta parole, bien sûr, par la Bible, mais aussi par des signes, par des rêves, de beaucoup de manières. Je te prie pour qu'il en soit ainsi, pour que chacun puisse arriver à cette vie qui est en toi. Et je te prie aussi pour ceux qui t'ont donné leur vie, qui, il y a bien longtemps, ont pris ce même engagement que Tabata Ali a pris ce matin parmi nous, et qui pourtant pataugent, et qui pourtant sont dans la peine, dans la difficulté, ne trouvent pas de sortie. Seigneur, je te prie d'abord de leur redonner cette espérance qui est la leur, qui leur appartient. Je te prie de leur permettre de voir la lumière qu'il y a au bout de l'épreuve qu'ils traversent. Et je te prie aussi pour qu'en Église, tous ensemble, on soit en mesure d'être en soutien, en accompagnant, et que, voilà, que les portes de sortie qui doivent être ouvertes le soient. C'est toi qui nous guides, c'est par ton Saint-Esprit, Seigneur. On n'a pas d'autre capacité que ton Esprit Saint qui nous guide, et nous marchons à ta suite. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Alors après ce message, j'ai envie de retenir une chose. Alors Laurent m'en veut pas, hein. Je ne veux pas retenir qu'une chose, mais j'ai envie de retenir celle-là. C'est déjà bien. J'appartiens. Tu appartiens, nous appartenons au Dieu de la vie. Et j'ai envie de croire que si nous sommes